Voilà, donc pas de musicien, pas de jeune, c'est Sylvain qui prend le tout. Et puis nous aurons un petit moment après les deux chants que nous allons chanter un tout petit peu plus tard, l'évocation de Carole Strelly, puisque ça fait 10 ans, jour pour jour pratiquement, qu'elle n'est plus revenue. Bien, je vais vous lire un énorme texte, très long. Philippiens 4:4. Je me pose des questions si les chrétiens sont des chrétiens 4:4. Comme il y a la neige, ça vaut la peine. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Et nous pouvons nous réjouir. Nous sommes au 362e jour de l'année, année de grâce, puisque nous sommes encore en vie, que nous avons pu vivre correctement. Si l'on compare à beaucoup de nos frères et nos sœurs dans des situations dramatiques. C'est pour cela que je lisais ce texte, parce qu'il faut se réjouir, jour après jour. Lorsque l'on se lève le matin, on est sur les deux pieds, on peut dire « Merci Seigneur ». Et ça, je peux vous le dire parce que je conduis des enfants handicapés et ces petits, entre 2 et 4 ans, sont quelque chose de formidable parce qu'ils sont toujours joyeux. Et lorsqu'on a des petits ennuis, bien, on peut se dire, bon, ah, ça ne va pas si mal, on a un papa qui nous prend dans les bras. Ne l'oubliez jamais. On a un papa. Et avec Jésus-Christ, nous pouvons aller à lui. Voilà la petite introduction. Et il y aura un chant qui va être signalé, le chant numéro 134. Voilà, Père Céleste, merci sois-tu parce que c'est vrai que tu tiens tout dans tes mains. Notre vie, notre destinée, nos bons et nos mauvais jours, et tu es notre papa. Tu l'as dit et par ton fils, notre Père, et si nous pouvons le dire autrement, mon Père qui est dans les cieux. Cela nous permet d'être en pleine forme et joyeux tous les jours de notre vie. Amen.
Voilà. J'invite Armand Heiniger, qui va donc évoquer le souvenir de Carol Strelly, qui était bien connu parmi nous. Et en même temps, je projettera quelques photos qui avaient été prises dans le voyage qu'Armand et des gens de Food for the Hungry avaient fait juste 2 mois avant.
Les médias nous ont abandonnés présenter ces jours derniers les séquences bouleversantes du drame de la catastrophe du tsunami. Cet événement qui est survenu le 26 décembre 2004, donc il y a 10 ans. Un triste anniversaire qui nous rappelle à la fois la fragilité humaine, voire aussi de notre planète. Hélas, parmi les plus de 200 000 visiteurs comptés, nous avons dû apprendre avec tristesse et douleur qu'un membre de notre communauté, Carol Strelly, accompagné par son frère Jean-Marc et sa cousine Françoise Firmenich, avait été emporté par une vague furieuse lors d'un court séjour à Phuket en Thaïlande. Je rappelle que Carol est un enfant de Mérin. Elle a suivi avec toutes les étapes du programme de notre Église, en commençant par l'école du dimanche, le catéchisme, le groupe des jeunes, dont elle est devenue l'une des responsables, tout en poursuivant ses études universitaires. Elle a complété sa formation à l'étranger dans le domaine du développement et de l'aide humanitaire. En 2002, après sa formation des stages, elle s'est engagée comme volontaire au Cambodge avec l'ONG Espoir pour la faim, ou ESFA, qui est devenue par la suite, qui a pris le nom de FH Suisse. Et parmi nous, il y a encore Thomas Diebold et moi-même dans le comité, et aussi nous avons l'appui de Harry Meyer pour toute la question informatique. Donc, Carole s'est consacrée dans le cadre de cette branche internationale de FH, comme on dit maintenant, à une région à l'ouest de Phnom Penh, dont le centre stratégique était la ville de Chuuk. Elle a assuré la direction de ce programme qui était varié, le suivi des enfants parrainés, l'appui aux écoles. Elle a aussi lancé la construction d'une nouvelle école. Elle a supervisé aussi le forage de 19 puits qui étaient financés par la commune de Mérin. Elle a aussi accompagné des jeunes filles qui ont pu suivre une formation professionnelle à Phnom Penh. Alors, d'une visite avec un petit groupe venu de Suisse dont je faisais partie, au début du mois de décembre 2004, nous avons eu l'occasion de voir et d'apprécier la qualité de son travail avec ses multiples facettes accomplies en collaboration avec une équipe de Cambodgiens qui devait la remplacer l'année suivante puisque son contrat prenait fin après 3 ans d'engagement. Le 9 décembre, Carole nous a accompagnés à l'aéroport de Phnom Penh lors de notre retour et personne d'entre nous n'oubliera son amitié, son grand souvenir de l'adieu à l'aéroport de Phnom Penh, mais nul d'entre nous se doutait que nous ne reverrions plus jamais le visage souriant de Carole. Le 25 décembre 2004, Carole avait rejoint son frère Jean-Marc et sa cousine à Bangkok en route ensemble pour prendre un petit break de fin d'année sur l'île de Phuket. Le même jour, le 25 au soir, ils se sont installés dans un bungalow à Khao Lak, à une 20aine de kilomètres de la ville de Phuket. Le 26 au matin, donc il y a quelques jours qu'on célébrait cela, le 26 au matin, après le petit déjeuner, ils se sont mis en route pour la plage pour leur première baignade. Et c'est sur ce chemin, pour la plage, que cette immense vague meurtrière du tsunami les surprend et les engloutit tous les trois. Jean-Marc, fort nageur, a réussi à rester en surface et sera projeté dans un arbre auquel il s'agrippe et auquel il devra son salut malgré quelques blessures. Descendu de son arbre, d'une hauteur de 6 mètres, il cherchera désespérément sa sœur et sa cousine sur la plage dévastée, mais hélas, la recherche sera vaine. Jean-Marc sera pris en charge dans un hôpital du lieu, d'où il appellera sa maman à Mérin pour lui annoncer le drame vécu et les recherches en cours, assumées en particulier par le directeur de FH de Bangkok qui s'était déplacé immédiatement pour participer à la recherche. Jean-Marc sera rapidement rapatrié vers la Suisse et soigné au Hugues à Genève, et c'est auprès de lui qu'il m'a raconté, avec émotion bien sûr, le déroulement de ce drame. Hélas, il faudra plusieurs mois pour identifier le corps de Carole et de Françoise finalement retrouvés. Le corps de Françoise sera incinéré sur place à la demande de sa famille. Nous avons accueilli et placé l'urne contenant ses cendres au cimetière du Grand Saconnet en avril déjà, entourée de sa famille. Françoise était institutrice et maman de 2 enfants adultes. Pour Carole, c'est seulement au mois de juin que le cercueil contenant les restes de Carole a pu être rapatrié. Et c'est le 9 juin, après un service d'adieu émouvant au CEPOM, dont certains se souviennent, que nous avons confié à la terre, au petit cimetière de Mérin Village, notre amie et notre sœur en Christ, Carole. L'offrande récoltée de ce service a permis de creuser une 20aine de puits en plus de ceux qui ont été faits du temps de Carole. Aux dernières nouvelles, la situation sanitaire de la région s'est grandement améliorée, marquée par le passage de Carole, car cela a amélioré les conditions sanitaires. Nous n'avons pas oublié Carole, et c'est bien pour cette raison que nous évoquons ce matin parmi nous et nous remercions le Seigneur pour le service dévoué accompli par Carole. La communauté des habitants de Mérin n'a pas oublié Carole non plus. Lors de l'anniversaire en 2004 du 50e anniversaire de l'association HVM, présidée aujourd'hui par Barbara Jeunecamp, celle-ci a fait un don de 10 000 francs à l'ONG FH en souvenir de Carole. Ils ont été très touchés par ce geste. Pour conclure ce moment d'évocation, en pensée avec la multitude de gens touchés et bouleversés par cette catastrophe, je vous invite à un instant de silence et puis de vous associer à la prière que je prononcerai en relation avec ce 10e anniversaire du tsunami. Seigneur, nous sommes là devant toi pour te présenter les traces marquées par les deuils, les blessures, les souvenirs traumatisants provoqués par cette catastrophe au sein de cette immense population du sud-est asiatique. Nous te prions en particulier pour les familles Ströli et Firmenich en ces jours du souvenir. Donne-leur ta paix. Nous te prions pour toutes les familles endeuillées, traumatisées par la disparition de l'un ou de plusieurs des leurs. Étends sur eux, Seigneur, ta consolation. Nous te prions également pour les familles qui, jusqu'à ce jour, n'ont pas de traces de leurs disparus. Renouvelle en eux l'espérance. Nous te remercions aussi pour tous les services officiels et pour tous les volontaires qui ont apporté leur aide et leur secours lors de cet événement. Nous osons, Seigneur, te demander de nous garder de telles catastrophes dans le futur. Seigneur, protège notre planète. Amen. Et peut-être un petit renseignement, lors du culte prochain du 19 janvier, nous accueillerons la représentante de FH Suisse qui vient annuellement participer à un de nos comités. Elle apportera avec elle des produits de tricotage réalisés par un groupe de vieilles dames en Suisse allemande. Et vous pourrez acheter ces broderies si le cœur vous en dit. Merci.
Voilà, nous allons continuer par un chant, le 392, et ensuite, Sylvain prendra tout de suite la parole.
Voilà, alors Armand a évoqué ce souvenir douloureux, qui reste douloureux pour beaucoup, de Carole, et aussi les fruits de son service. Et peut-être que ça évoque pour l'un ou l'autre d'entre nous, d'autres tragédies. Puis on est à la fin d'une année, un moment qui suscite des questionnements, qui nous rend conscients du temps qui passe, des années qui passent, vite, avec des souvenirs, sans doute, d'événements heureux. Peut-être que ça en évoque, des événements heureux qui suscitent notre reconnaissance. Il y a des mariages, des naissances, peut-être des examens réussis, que sais-je. Et puis, il y a aussi des souvenirs d'événements douloureux, difficiles ou tragiques, dans lesquels on est parfois reconnaissant à travers ces difficultés d'avoir été gardé, d'avoir reconnaissant pour la présence de Dieu, mais parfois c'est aussi l'incompréhension ou le découragement. Et puis peut-être que cette année a été marquée par des prières exaucées ou par d'autres qui restent sans réponse depuis longtemps. Et on pense aussi à ce qu'on a pu accomplir ou réussir, et puis à la frustration des projets inachevés. Moi, je pense que j'en ai toujours pas mal. Je ne sais pas ce qu'il y en est pour vous. Je vous propose, pour méditer sur ces questions et nous recentrer sur l'essentiel, un passage de la lettre de Paul aux Philippiens que Jacques va nous lire tout à l'heure. C'est en fait la première église d'Europe, hein, l'église de Philippe que Paul avait fondée. Et quelques années plus tard, c'est d'une prison qu'il écrit cette lettre aux Philippiens, dont nous a été lu un verset au début du culte, une lettre très chaleureuse. Et dans le passage que nous allons lire, Paul veut nous, justement nous recentrer sur l'essentiel, sur ce qu'est, en somme, l'objectif, la perspective essentielle de notre parcours sur cette terre. Et il évoque son passé de juif pratiquant, hyper zélé, qu'il avait même amené à persécuter l'Église.
Philippiens 3, à partir du verset 7. Mais ces qualités que je regardais comme un gain, je les considère maintenant comme une perte à cause de Christ. Et je considère même toutes choses comme une perte en comparaison de ce bien suprême, connaître Jésus-Christ, mon Seigneur, pour qui je me suis privé de tout avantage personnel. Je considère tout cela comme des déchets, afin de gagner le Christ et d'être parfaitement uni à lui. Je n'ai plus la prétention d'être juste grâce à ma pratique de la loi. C'est par la foi au Christ que je le suis, grâce à cette possibilité d'être juste créée par Dieu et qu'il accorde en réponse à la foi. Tout ce que je désire, c'est de connaître le Christ et la puissance de sa résurrection, d'avoir part à ses souffrances et d'être rendu semblable à lui dans sa mort, avec l'espoir que je serai moi aussi relevé d'entre les morts. Je ne prétends pas avoir déjà atteint le but ou être déjà devenu parfait, mais je poursuis ma course pour m'efforcer d'en saisir le prix, car j'ai été moi-même saisi par Jésus-Christ. Non, frère, je ne pense pas avoir déjà obtenu le prix, mais je fais une chose. J'oublie ce qui est derrière, moi, et m'efforce d'atteindre ce qui est devant, moi. Ainsi, je cours vers le but afin de gagner le prix que Dieu, par Jésus-Christ, nous appelle à recevoir là-haut.
Je considère toute chose comme une perte, dit Paul. Ben moi, je dois dire que je m'en sens bien loin de, voilà, de pouvoir le dire comme ça. Parce que je reste quand même pas mal attaché à pas mal de choses de cette vie terrestre. Alors, comment est-ce que Paul en arrive à dire cela? Bon, comme on l'a dit, c'était un persécuteur zélé des premières églises. Et puis, il fait un jour une rencontre aveuglante, hein, au sens propre et figuré, avec le Christ, qui le retourne entièrement, qui réoriente complètement toute sa vie. Alors, il avait passé des années à fréquenter les rabbins et à lire les textes sacrés. Alors, il dit que c'est une perte, mais Dieu va bien utiliser toutes ces connaissances qu'il a acquises en fréquentant les rabbins et en fréquentant l'Écriture. C'est bien grâce à toutes ces connaissances qu'on a toutes les épîtres de Paul aujourd'hui. Pourtant, même ces connaissances, aussi précieuses soient-elles, il les considère comme une perte au regard de la connaissance de Christ. La connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, dit-il, avec le pronom personnel. Parce que pour lui, il a passé de cette connaissance abstraite à une connaissance personnelle et intime, un lien personnel avec le Christ qui éclipse tout le reste. Mais qu'est-ce que ça signifie? Je n'ai plus la prétention d'être juste grâce à ma pratique, dit-il. Ben, c'est bien là le cœur du message de l'Évangile, de la grâce, hein, qu'on répète souvent dans nos églises. On y insiste beaucoup sur la grâce de Dieu. Et pourtant, parfois, je m'interroge. Je sais que j'ai une cousine qui est infirmière à domicile, puis ça la surprend de voir souvent les chrétiens en fin de vie qu'elle accompagne comme infirmière, et de voir des chrétiens culpabilisés, qui se demandent s'ils ont suffisamment bien vécu leur vie chrétienne. Alors que Paul nous rappelle ici un message qui est libérateur. qui est de ne pas asseoir notre valeur sur ce que nous avons pu réaliser, hein, de ne pas nous culpabiliser de ce que nous avons manqué ou de ce que nous avons raté. C'est un peu ça que Paul apprend quand il dit que c'est le Christ qui est tout, qui est la première chose. C'est donc d'être dans une relation renouvelée qui est basée sur la foi. Mais peut-être qu'en prenant un autre mot, ça nous parle plus. La foi, c'est la confiance. C'est pas seulement croire que, c'est avoir personnellement confiance en Dieu comme une personne qui nous aime, qui nous accueille. C'est ça la foi. Et puis il dit plus, connaître le Christ et la puissance de sa résurrection et avoir part à ses souffrances. Ça, c'est, on a un peu moins envie. Moi, en tout cas. Alors, bon, je pense qu'il faut peut-être éviter un malentendu. Il ne s'agit pas de rechercher la souffrance pour elle-même. C'est une chose qui s'est faite dans certains mouvements du christianisme, où en somme, presque comme si en souffrant un peu quand même, on participe à... On travaille à notre salut. C'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit pas non plus de glorifier la persécution. Et des fois, quand on parle des chrétiens persécutés, dans certains cercles, on a tendance un petit peu à glorifier les chrétiens persécutés. Non, parce que, par ailleurs, il nous est demandé de chercher à vivre en paix autant que cela est possible avec tous les hommes. Et non pas à rechercher, à se faire mal voir pour prouver notre foi. Mais ce que je relève, c'est que dans l'Évangile, ça c'est assez fondamental, il y a à la fois la puissance de la résurrection et la participation aux souffrances. Alors la puissance de la résurrection, c'est pas seulement pour l'avenir, c'est aussi le fait que il y a des guérisons, il y a des délivrances réelles qu'on peut vivre dans cette vie, mais pas toujours. Et on n'est pas plus épargné que d'autres, et ça nous a été bien rappelé avec Carole, on n'est pas plus épargné par les souffrances de la vie, par les malheurs, et souvent par la souffrance injuste et le mal subi, qui, il faut le dire, sont souvent le plus grand questionnement par rapport à la foi. Ça peut être le questionnement pour nous, c'est aussi un obstacle pour des gens auprès de qui on veut témoigner. Je pense juste à un exemple dans l'histoire. On a souvent parlé d'imaginer que Darwin était devenu athée et que c'était que sa théorie de l'évolution était une apologie de l'athéisme. Mais en réalité, déjà, il n'était pas athée. C'était un croyant qui est devenu agnostique et qui a toujours respecté la foi de sa femme. Mais la grande chose par laquelle il est devenu agnostique, c'est la perte d'un enfant. Et quelque part, ce sentiment d'injustice par rapport à Dieu. Bien, l'Évangile nous invite à accueillir la souffrance comme faisant partie du chemin de la vie. Et on a aussi ça, pas seulement la résurrection. Mais c'est un chemin dans lequel Jésus, Dieu lui-même, à travers Jésus, nous a rejoints. Et c'est la réalité que nous avons rappelée à Noël. Donc, on n'est pas tout seul à souffrir dans notre coin, mais on a cette présence, cette solidarité qui est exprimée dans la vie de Jésus-Christ. Et puis, nous sommes en chemin. Paul dit, je ne prétends pas avoir déjà atteint le but ou être devenu parfait. Paul sait que sa vie terrestre, mais la vie de nous tous, débouche sur cette perspective lumineuse de la présence de Dieu, au-delà des souffrances du chemin terrestre. mais il sait que ici on est en chemin. Alors, ce qui est intéressant, c'est que là, je vais déborder un petit peu juste de ce texte, parce que c'est une espèce de belle envolée lyrique, okay, mais juste un tout petit peu plus loin. Il dit « Mes frères bien-aimés que je désire t'en revoir, tenez ferme. » Donc, voilà, il n'est pas encore au ciel, il a toujours envie de revoir ses chers Philippiens. Et puis, juste après, il s'adresse à deux chères collaboratrices, qui s'appellent Evodie et Saint-Dish, et Saint-Ish pour les supplier de régler leur conflit et puis pour demander à un autre ancien collaborateur de jouer un rôle de médiateur pour leur aider dans cette démarche. Et donc, il garde tout à fait les pieds sur terre. C'est donc bien dans le concret de l'existence quotidienne, de nos relations, que ce message de grâce et de pardon et de réconciliation du Christ est appelé à s'incarner. Donc si le cœur de la connaissance de Jésus-Christ est d'accueillir la grâce de Dieu pour nous, c'est aussi de la vivre dans nos relations quotidiennes, que ce soit dans l'Église, dans la famille, avec les amis, dans le travail. C'est là que c'est appelé à se vivre. Alors il y a un peu plus loin une exhortation que j'y garderai pour la fin du culte, mais je vous proposerai de prendre simplement maintenant un moment de prière en pensant à cette année écoulée, un moment de prière libre. Pensez à nos sujets de reconnaissance ou déposer quelque chose qui nous pèse. Exprimer notre confiance pour l'année qui vient. Et puis demander l'aide, la présence de Dieu pour nous-mêmes ou pour nos proches qui sont dans la souffrance. Il y a un certain nombre de personnes qui sont malades, hein, dans notre communauté, on peut penser à eux. Amen.